Tout de suite, on lance notre débat sur l'actualité du moment, puisqu'on décompte 14 morts depuis janvier à Marseille dans des circonstances particulièrement violentes et sordides, souffrant de guerre des réseaux de drogue. Est-ce que cette ville est en état de guerre dans ses quartiers? Est-ce qu'en tant que citoyen, en tant que parent, on peut encore vivre un quotidien sans la peur de cette violence et d'être une victime collatérale comme cet enfant de 8 ans, grièvement blessé la semaine dernière lors d'une fusillade? D'où notre question du jour. Selon vous, à quel niveau se trouve en priorité la solution contre ces trafics de drogue? 1. La police et la justice. 2. Les parents. 3. Le gouvernement. Ou 4. Encore l'éducation nationale. N'hésitez pas à réagir sur notre compte Twitter Sud Radio ou au 0826 300 300 sur notre standard. Et pour en parler avec nous, notre premier invité, Bruno Bartocchetti, délégué régional du syndicat d'unité SGP Police FO pour la zone sud, Occitanie, PACA, Corse. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Bruno Bartocchetti.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, par rapport au sondage dont parlait Marine, pour l'instant, la très grande majorité de nos auditeurs mettent en avant justement la police et la justice, voilà, pour faire face à 47% pour être l'une des solutions, si ce n'est la solution, pour faire face à ces trafics. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on sait aujourd'hui sur les profils des trois personnes tuées ce week-end à Marseille? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ce matin?
Voilà, bon, l'enquête est toujours en cours, comme vous le savez. Le profil est un peu différent de ce garçon de 14 ans qui a été tué, parce qu'ils sont un petit peu plus âgés. Maintenant, on sait bien évidemment qu'ils étaient connus de la police et de la justice, et notamment en matière de stupéfiants. Voilà ce qu'on peut retenir sur le profil, on va dire, classique, et malheureusement avec des règlements de compte classiques sur ce thème-là.
À la mi-août, on était à 11 personnes décédées selon le ministère de l'Intérieur depuis le début de l'année. On s'achemine vers une année tristement record ou pas? Et comment on explique cette flambée, notamment cet été, des homicides sur fond de trafic de drogue?
Oui, je me souviens sur votre antenne avant l'été où j'avais parlé d'un été chaud et je parlais pas de météo, comme vous en doutez.
Tout simplement
parce qu'on sait qu'il y a un regain de violence, pas qu'à Marseille, hein, on l'a eu aussi dans le Vaucluse récemment. Et c'est vrai que les règlements de compte, alors on va retenir deux raisons essentielles. Alors c'est vrai qu'il y a l'occupation du terrain faite par la police nationale, c'est un premier point, mais surtout vous avez un déplacement des vendeurs de stupéfiants, des dealers. Vous savez, les acheteurs sont de plus en plus nombreux, soulignons-le, mais se déplacent de moins en moins. C'est moins agréable d'aller dans les cités. C'est très difficile pour eux parce qu'il y a la crainte d'être pris en flagrant délit. Donc vous avez ces dealers qui se déplacent et qui du coup occupent le terrain des concurrents, et on part sur des règlements de compte sous forme d'occupation de territoire, même s'il y a aussi des règlements de compte sous forme de dénonciation, comme on le sait.
On a appris justement vendredi à ce titre que deux trafics de livraison de cocaïne à domicile avaient été démantelés du côté de Marseille. Livreurs acheminaient de la drogue à scooter, à vélo et même à trottinette. Alors au-delà du fait qu'ils se déplacent et donc qu'il y a des risques de guerre de territoire, est-ce que ça monte pas aussi là le niveau de confiance acquis par certains trafiquants, une forme de sentiment peut-être d'impunité?
Bah écoutez, si vous voulez, ça va même plus loin. Vous savez, le sentiment d'impunité, quand vous savez qu'en matière de sanctions, même si c'est 10 ans maximum pour un trafiquant de stupéfiants, eh bien, il écope de 2-3 ans, et encore, parfois, ils ne purgent pas leur peine. Mais ça va même plus loin, puisque vous voyez, à travers le règlement de compte, ils n'ont même pas peur de la peine de mort, parce que c'est ce qui existe dans leur mode de fonctionnement. C'est la peine de mort. Ils dépassent rarement les 30 ans, ces dealers-là. Donc tout est permis, on ose tout, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Leur seul but, enfin, le principal but, c'est de s'acheter une voiture à 200 000 euros. Voilà, donc ça manque bien sûr de réflexion, ça manque aussi d'encadrement des l'âge de 7-8 ans. Ils sont dans un milieu de la rue, de la drogue, et ils évoluent ainsi, et pour eux tout est permis. Et c'est vrai, vous le soulignez, il y a une petite forme d'impunité, parce que la circulation de stupéfiants et d'armes à feu, soulignons-le, tout ceci est énorme sur notre territoire. Et pour nous policiers, au-delà d'occuper le terrain, bien on doit prendre le temps, parce que les procédures pénales sont longues, on doit prendre le temps pour démanteler un réseau, pour bien ficeler nos procédures, comme on dit dans notre jargon, et présenter celle-ci à la justice pour qu'elle sanctionne. Mais vous avez, à côté de ça, de nombreux réseaux qui peuvent évoluer pendant des années avant d'être traduits en justice.
Il y a une autre question qui se pose aussi, c'est quand on voit l'âge des victimes, l'âge des trafiquants qui peuvent prendre les armes aussi, quand on voit cette évolution-là, c'est une évolution particulièrement forte, on a une tendance au rajeunissement sentiment de ceux qui tiennent ces réseaux ou qui en tiennent les ficelles aussi? C'est ce que vous constatez sur le terrain?
Oui, on le constate, et puis on avait d'ailleurs, on était choqués de voir il y a 7-8 ans qu'on était dans un rajeunissement avec des mineurs de 16-17 ans qui évoluaient dans la circulation des stupéfiants, et là aujourd'hui on voit c'est des gamins de 13-14 ans. Mais vous savez, la drogue circule beaucoup plus fort qu'il y a encore 10 ans, encore plus fort qu'il y a 30 ans, la cocaïne coûte 5-6 fois moins cher, il y a de plus en plus de consommateurs, ça démontre que notre société est malade, et du coup, et de fait, les réseaux se multiplient, ils ont besoin alors de main d'œuvre, ça commence par des guetteurs, on les prend très jeunes, puis on retient aussi qu'un gamin de 14 ans qui est traduit en justice ne sera pas sanctionné. Donc tous ces éléments donnent de la force à ces réseaux pour amener très vite des jeunes gamins dans le réseau de stupéfiants.
Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à inquiéter les gros trafiquants ou est-ce qu'on s'attaque finalement à ceux dont on peut éventuellement auquel on peut s'attaquer, c'est-à-dire les plus jeunes ou ceux qui sont en première ligne, les guetteurs?
Voilà, aujourd'hui, lorsqu'on travaille, si on travaille essentiellement sur les guetteurs, sur les dealers et sur les consommateurs, on va pas dans le fond du sujet. Mmh. Et la réponse est un petit peu dans votre question. Les gros bonnets, on a du mal à les faire tomber parce que d'abord, on nous demande des résultats très rapides. Et donc, il faut donner, en fait, des moyens aux officiers de police judiciaire, hein, aux policiers qui travaillent dans l'investigation, de donner des moyens à la justice, de pouvoir travailler sur du long terme pour faire tomber les gros bonnets. Ensuite, vous avez, si vous m'accordez encore 2 secondes, un groupe qu'on doit renforcer dans le cadre du travail, ce sont les groupes interministériels de recherche, où on y retrouve les impôts, la douane, la gendarmerie et la police, et là on pourra faire mal aux gros bonnets. Mais encore faut-il s'en donner les moyens sur un plan politique, sur le niveau du gouvernement, et bien sûr travailler sur l'international, comment on pourrait travailler pour éviter l'importation de cannabis qui nous provient essentiellement du Maroc. Donc c'est pas en faisant tomber les petits dealers qu'on va inquiéter effectivement les lieutenants qu'on appelle, les lieutenants qui ont bien souvent un réseau qui part de Marseille jusqu'à Nîmes, Montpellier, voire Toulouse.
Oui, Bruno Bartocchetti, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour lancer ce débat. Je rappelle que vous êtes délégué régional du syndicat d'unité SGP Police FO pour la zone sud, Occitanie, PACA, Corse. Merci et bonne journée à vous. On poursuit justement sur ce débat. Merci à vous. On poursuit et on rappelle notre question du jour. Selon vous, à quel niveau se trouve en priorité la solution contre les trafics de drogue? Pour l'instant, sur Twitter, vous dites la police et la justice à 47% en tête, suivi des parents, 25%, du gouvernement, 24%, et de l'éducation nationale à 4%. Tenez, une réaction d'Eval Jean qui nous écrit sur Twitter. La solution, c'est le gouvernement, c'est lui qui applique sa politique et donne des moyens et des ordres aux forces de l'ordre. Hélas, aucune volonté de nos politiques pour mettre fin au trafic de drogue. Voilà pour sa réaction. Continue le débat, Marilyn, avec de nouveaux invités.
Exactement, on accueille de nouveaux invités. Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône et président du groupe RN au Conseil municipal de Marseille. Et Karine Sabourin, déléguée de l'Union syndicale des magistrats USM à Marseille et présidente de chambre correctionnelle au tribunal judiciaire de Marseille. Bienvenue à vous deux, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, Stéphane Ravier, ça vous surprend, c'est 4 homicides en moins d'une semaine à Marseille et justement cette flambée des violences, on en a parlé à l'instant avec Bruno Bartocchetti d'unité SGP Police FO.
La vérité, c'est que ça ne surprend plus personne, que ce soit la hiérarchie policière ou les Marseillais en général. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, lorsqu'il y avait un homicide lié au trafic de stupéfiants, ça faisait la une de la Provence, le journal, le quotidien local.
C'était On l'était avec eux d'ailleurs il y a une demi-heure.
c'était quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, cela va être un entrefilé, un petit article, sauf bien sûr dans un cas que j'espère exceptionnel, de cet enfant de 14 ans qui a été la cible de règlement de compte il y a quelques jours. Mais donc on finit pas par s'y habituer, mais tout le monde s'y attend au prochain parce que ces trafics a basculé dans l'ultra-violence immédiate, sans aucun code, sans aucun règlement. On va régler son compte pour non pas détenir le monopole du trafic sur une cité, mais simplement sur l'entrée d'un immeuble. On s'entretue pour pas grand-chose à Marseille parce que nous avons affaire à des gens qui sont animés d'une véritable sauvagerie, ne reculent devant rien. M. Bartocchetti l'a dit, ils n'ont même pas peur de la peine de mort et pourtant il faut quand même tout faire pour les mettre hors d'état de nuire. J'ai entendu plusieurs solutions que vous présentez dans votre sondage. Est-ce que On doit mettre l'accent sur les parents, sur l'éducation nationale, l'État, la justice, la police. C'est sur l'ensemble de ces mesures qu'il faut mettre l'accent. Mais pour l'instant, il n'y a que le domaine social qui est évoqué et sur lequel on appuie depuis 30 ans. Or, on voit bien que ça n'a aucune espèce de conséquence positive, parce que les parents, eux, beaucoup trop souvent démissionnent, parce que la police n'a pas assez de moyens, M. Bartosetti l'a dit, et la justice est soit laxiste, soit n'a pas les moyens non plus, parce qu'il y a des condamnations qui sont prononcées, mais elles ne sont pas exécutées parce qu'on manque de places en prison et où on se refuse d'expulser les délinquants étrangers lorsqu'ils ont purgé leur peine. Donc il y a toute la chaîne de la sécurité qui est à reprendre dans ce domaine.
Stéphane Ravier, il y a aussi la question, alors on a des auditeurs sur les réseaux sociaux, Twitter, qui pointent du doigt aussi la responsabilité des politiques. Est-ce que du côté des politiques, on a bien majoritairement baissé les bras aujourd'hui face à ce fléau de la délinquance, des trafics de drogue ?
On a commencé par détourner le regard il y a une vingtaine d'années, ou en tout cas avoir des yeux de chimère. Il s'agissait d'un problème social. Grâce à la politique de la ville, on allait voir ce qu'on allait voir, en déversant des centaines de millions d'euros, voire des milliards, 100 milliards sur 30 ans sur l'ensemble du pays, on allait résoudre le problème. La Cour des comptes a d'ailleurs pointé l'échec de cette politique, et moi, ces quartiers à Marseille, je les connais bien. J'en ai été le maire sans aucun pouvoir de police, je tiens à le préciser, ni national, ni même municipal. Eh bien, dans les 13e et 14e arrondissements qui sont souvent concernés, il y a 23 cités de la drogue. Je ne parle pas de points de deal, de cités de la drogue. Et pourtant, l'argent coule à flot. Donc, les politiques se sont contentés d'une vision sociale sans vouloir y mettre les moyens policiers et encore moins de justice. Il y a eu trois règlements de compte. Parmi les deux là qui ont été abattus, le troisième ayant été manifestement incendié, immolé dans sa voiture, eh bien un des deux avait été condamné à 12 reprises. 12 reprises. Donc on voit bien qu'il y a là un système judiciaire qui ne répond plus à la réalité de ce trafic. Donc c'est pour cette raison que moi je souhaite que l'on s'inspire de cette loi qui existe aux États-Unis et qui prévoit que un juge soit amené, voire contraint, à condamner à la perpétuité un individu, un prévenu qui aurait commis un crime pour la troisième fois, une troisième récidive. Parce que l'on a affaire à des gens, effectivement, qui n'ont pas peur de la prison, qui n'ont pas peur de la mort. Et une fois qu'ils sont en prison, il faudrait aussi qu'ils soient vraiment en prison. Qu'on ne leur permette plus d'utiliser des téléphones ou de gérer le trafic de la prison, parce que c'est ce qui se passe aussi.
On va faire réagir justement Karine Sabourin, qui est avec nous, déléguée de l'Union syndicale des magistrats à Marseille, je le rappelle. Déjà, avant de développer un mot sur ce que disait Stéphane Ravier, sur cette question de la perpétuité pour des crimes répétés pour la troisième fois, est-ce que ça vous semble justifié ou pas ?
Il faut voir d'abord, c'est le déroulement d'un procès, hein, c'est le jugement d'une personne avec sa participation. Mais je ne crois pas qu'une personne qui soit condamnée pour la troisième fois pour homicide volontaire dans le cadre de règlement de compte écope d'autre chose que de la perpétuité. Hein. Quelqu'un qui comparaît trois fois pour meurtre avec des affaires élucidées, des déclarations de culpabilité, je ne pense pas qu'il obtienne beaucoup de clémence de la part de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Hein. Et je demande d'avoir des exemples. Non, mais tout ce qui vient d'être dit globalement est tout à fait raisonnable, hein. Sauf peut-être cette dernière remarque, vous me permettrez, de Monsieur Ravier. Mais pour répondre à vos auditeurs, le trafic de stupéfiants à Marseille met en cause de tels enjeux financiers, il est tellement ancré, hein, dans la ville et dans les cités, qu'en réalité, il n'y a qu'une méthode, c'est une méthode d'approche absolument globale. Et pour répondre aux interrogations de vos auditeurs et à votre interrogation, la lutte, elle se situe à tous les niveaux. Les parents, l'éducation nationale, le gouvernement par l'insertion professionnelle notamment, la police et la justice. Alors, je ne sais pas si c'est le moment, mais je peux reprendre chacun de ces points, si vous voulez.
On va les développer. Alors, commencer, on continuera de les développer, mais commencer déjà sur cette idée de, justement, alors peut-être sur les parents, ça m'intéresse. Comment on peut faire justement sur les parents pour les responsabiliser, faire en sorte, parce que certains mettaient en avant la faillite aussi de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'on en parle dans notre question du jour, à faire en sorte que ces enfants qui ont l'obligation d'être à l'école soient effectivement à l'école.
C'est fondamental, si vous voulez, d'une part qu'ils soient scolarisés pour déboucher sur une insertion professionnelle, ça c'est fondamental, mais d'autre part qu'ils reçoivent une éducation sanitaire. Moi, j'ai été parquetière, j'ai été au parquet, oui. J'ai participé à ces comités de prévention de la délinquance. Et les professionnels, les éducateurs, nous indiquaient bien que la formation pédagogique d'un enfant, la formation sanitaire, c'est entre 10-12 ans. C'est entre 10-12 ans que l'enfant est apte à comprendre et à intégrer dans son fonctionnement qu'il ne faut pas consommer des drogues, qu'il faut s'alimenter correctement, qu'il faut travailler à l'école. Si vous voulez, c'est entre 10-12 ans. Alors pour ça, il y a des associations, il y a l'éducation nationale, il y a les parents, il faut en revenir un petit peu aux fondamentaux. Si vous voulez, si l'enfant entre 10-12 ans acquiert ces idées fondamentales, cette formation fondamentale, cette éducation fondamentale, peut-être qu'il fera des conneries, passez-moi l'expression, à 15, 16 ans ou même 20 ans, mais il saura. À ce moment-là, on aura une lumière rouge qui s'allumera et il sait qu'il dépasse les bornes et qu'il dépasse les limites et il reviendra naturellement sur le bon chemin.
Et où ça se passe? Où on peut la donner, justement, cette formation, cette éducation, d'une certaine façon, aux alentours de 10-12 ans?
Si vous voulez, je crois que les réseaux associatifs, peut-être, peuvent encadrer les parents. Moi, j'ai vécu à La Rochelle où le maire Michel Crépeau, à l'époque, c'était il y a déjà très longtemps, avait quadrillé la ville d'associations avec des éducateurs, des associations sportives, des associations artistiques, et tous les quartiers étaient, tous les jeunes étaient encadrés, mais vraiment encadrés par des éducateurs, et les parents se sentaient soutenus et ne démissionnaient pas.
Karine Sabourin, vous restez avec nous, on va continuer de développer justement tous ces points dans un instant. Je rappelle, vous êtes déléguée de l'Union syndicale des magistrats à Marseille, présidente de chambre correctionnelle au tribunal judiciaire de Marseille. Vous restez avec nous, on continuera d'en débattre dans un instant avec Stéphane Ravier qui est toujours avec nous, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, président du groupe Rassemblement National au conseil municipal de Marseille. On vous rappelle cette question, la question qu'on vous pose ce matin sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Selon vous, à quel niveau se trouve en priorité la solution contre les trafics de drogue? La police et la justice? Réponse 1. Les parents, réponse 2. Le gouvernement, réponse 3. L'éducation nationale, réponse 4. Si vous pensez, comme nos invités, que ça se situe à tous les niveaux, vous avez le droit justement de l'ajouter en commentaire, de nous le dire, que pour vous, c'est une réponse globale. Allez, restez bien avec nous sur Sud Radio, on revient dans un instant.
Sud Radio, le grand matin, était 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
9h25 dans le grand matin été de Sud Radio. C'est le grand débat. Ça se poursuit avec nos invités sur cette question. Selon vous, à quel niveau se trouve en priorité la solution contre les trafics de drogue? On en parle avec Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône et président du groupe Rassemblement National au conseil municipal de Marseille. On est également avec Karine Sabourin, déléguée de l'Union syndicale des magistrats à Marseille, également présidente de chambre correctionnelle au tribunal judiciaire de Marseille. Avec Marie-Line qui voulait réagir, vous aviez une question pour nos invités.
Oui, pour nos auditeurs qui sont parents, dès que notre enfant est absent de l'école une heure, on reçoit un SMS ou une information. Il y a un truc important, c'est que si l'école est effectivement un cadre d'éducation essentiel, et en plus elle est obligatoire, l'école jusqu'à 16 ans, quelles sont les sanctions prévues pour un enfant qui ne vient pas à l'école une fois, deux fois, dix fois, qui ne vient jamais à l'école? Il y a bien des sanctions qui sont prévues.
Alors peut-être pour Karine Sabourin dans un premier temps.
Alors non, c'est pas pénalisé ça, l'absence scolaire.
Bien sûr.
C'est pas pénal, donc c'est peut-être... Je suis ravi en tant qu'élu et membre du conseil municipal qui va pouvoir répondre.
Stéphane Ravier, oui.
Précisément, je serais incapable de vous le dire, mais ce que je sais, c'est que s'il y a des sanctions prévues, elles ne sont pas appliquées. Et c'est bien là le problème, c'est que les parents ne sont pas sanctionnés. Alors, il y a cette proposition récurrente que de les sanctionner au portefeuille. Et les allocations familiales qui ne leur seraient pas versées de façon évidemment provisoire, ce à quoi je suis favorable. On me répondra que ces familles sont déjà en difficulté et qu'on va ajouter de la difficulté à la difficulté. Je le dis, je préfère ajouter de la difficulté passagère plutôt que le gamin se retrouve dans le trafic de stup, voire être victime de règlement de compte. À un moment donné, il faut créer un électrochoc au sein de la famille pour qu'elle comprenne la dangerosité de la situation. Juste un petit mot sur ce que je disais tout à l'heure pour cette loi aux États-Unis dont je souhaite m'inspirer. Mais il n'est évidemment pas question de proposer la perpétuité pour des crimes de sang qui, eux, devraient être sanctionnés par la perpétuité, encore que la perpétuité réelle en France n'existe pas. Moi, je souhaite que cette perpétuité concerne déjà des trafiquants
Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en gros,
participer à des crimes de sang, des gros bonnets, des gros trafiquants, les fournisseurs, voire les dealers de quartier, une fois, deux fois, trois fois, ou en tout cas s'inspirer de cette loi pour que les trafiquants sachent que la justice sera désormais implacable, qu'elle sera sévère, à condition qu'on se donne les moyens, bien sûr, d'incarcérer ces individus. Pour ça, il faut expulser les délinquants étrangers, ça fera de la place. 25% des détenus sont étrangers dans notre pays. Une fois qu'ils ont purgé leur peine, eh bien, il faudra les expulser. Donc, il y a cette partie-là qui n'a pas encore été explorée. Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a une conception uniquement sociale du problème du trafic de stupes à Marseille et sur l'ensemble du territoire. Peut-être un point, mais...
Allez-y, oui.
C'est peut-être trop long de ma part, mais il y a aussi, je dirais, il y a d'abord, Madame la magistrate le disait, les parents doivent apprendre à leurs enfants que la drogue, il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce, la drogue, c'est de la merde. Le joint, le cannabis, quand vous avez fumé du cannabis, vous êtes un zombie, vous êtes un danger pour la société. Si vous prenez votre voiture, votre scooter, et vous avez le cerveau qui est attaqué, je veux dire, les médecins vous le diront, c'est un danger pour votre santé. Donc ce message que les parents doivent faire passer, et pour certains, ils le font passer, si derrière l'associatif ne le fait pas passer, si l'éducation nationale ne le fait pas passer, si les politiques non seulement ne le font pas passer, mais disent presque le contraire, vous savez, le cannabis, le joint, c'est une drogue douce, on pourrait peut-être la légaliser, on peut même mettre en place des salles de shoot, c'est-à-dire permettre aux drogués de se droguer en toute sécurité, comme ils le disent. Il y a des messages contradictoires qui ne permettent pas à la jeunesse d'y voir clair, si je puis dire, dans ce domaine des stupéfiants. Donc il faut une ligne d'information et de prévention, vous voyez, j'y pense aussi, je suis persuadé que c'est nécessaire, mais à condition qu'elle soit cohérente. La drogue, c'est de la merde. Je crois que c'était une publicité, en tout cas une information il y a quelques années qui était diffusée à la télévision, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On nous propose de la légaliser, on nous propose de la consommer en toute sécurité, alors que le trafic se fera toujours, parce que ça sera toujours moins cher. Par le trafic.
Vous restez avec nous, on revient dans un instant. On posera la question aussi à Karine Sabourin, justement de la question des moyens. Est-ce qu'on a assez de magistrats en France pour faire face à ce fléau, justement des trafics de drogue? On revient dans un instant sur cette question-là, sur Sud Radio. C'est le grand matin été, on revient dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
Bonne matinée à tous sur Sud Radio, il est 9h33. Vous êtes bien dans le petit-déj de l'actu. On continue le débat autour de la question du jour. Selon vous, à quel niveau se trouve en priorité la solution contre les trafics de drogue? 1. La police et la justice. 2. Les parents. 3. Le gouvernement. 4. L'éducation nationale. Et nos invités pour en parler, Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône et président du groupe Rassemblement National au Conseil municipal de Marseille, et Karine Sabourin, déléguée de l'Union syndicale des magistrats USM à Marseille, et présidente de chambre correctionnelle au tribunal judiciaire de Marseille.
Karine Sabourin, on a souvent, du côté de la police, mis en avant le manque d'effectifs. On voit sur ce quinquennat qu'il y a une volonté de la part du ministère de l'Intérieur de recruter. C'est quoi la situation aujourd'hui au sein de la justice sur le nombre de magistrats? Est-ce qu'on a assez de magistrats pour faire la guerre, entre guillemets, comme certains le disent, au trafic de drogue?
Non, c'est catastrophique. La situation de la justice est catastrophique. On n'a pas plus de juges qu'au siècle dernier. Nos compétences n'arrêtent pas de s'élargir dans tous les domaines. La judiciarisation de la vie, de la société, c'est une chose. L'environnement, les violences conjugales, la pollution. On est débordé, et spécifiquement au tribunal de Marseille, mais tout le monde est au courant. On a justement subi actuellement au tribunal de Marseille une inspection de fonctionnement pour évaluer la charge de... C'est nous qui l'avons demandé pour redimensionner la juridiction parce qu'on n'en peut plus, on croule. Mais pour éclairer vos auditeurs, je voulais revenir sur deux aspects, si vous m'y autorisez. La lutte contre les stupéfiants à Marseille, en réalité, elle se fait à deux niveaux au quotidien. D'une part, les démantèlements des trafics dans la rue, l'arrestation des guetteurs, l'arrestation des vendeurs, ça débouche sur des comparutions immédiates. Et j'invite les citoyens à venir aux audiences de comparution immédiate. J'en ai une cet après-midi où comparaissent à chaque fois les trafiquants interpellés. Donc, d'une part, le niveau de trafic de rue et d'autre part, le démantèlement par la Sûreté départementale et la police judiciaire d'énormes trafics de stupéfiants, d'organisations nationales et internationales qui donnent lieu à des saisines de juges d'instruction, à des enquêtes qui sont très longues, qui sont très lourdes, très chronophage pour les policiers, pour les magistrats, en termes d'audience également, qui débouche sur des audiences correctionnelles spécifiques devant le tribunal et devant la cour d'assises. Donc, si vous voulez, il y a les deux niveaux. Le niveau de harcèlement de rue, D'une part, et d'autre part, le niveau des grandes enquêtes, des grandes investigations sur les organisations régionales, nationales et internationales. Mmh. Et pour en revenir sur le temps judiciaire, il y a deux réalités quand on juge une affaire de stupéfiants. Il y a d'abord l'audience, la déclaration de culpabilité, le choix de la peine. Et ensuite, il y a l'exécution des peines. Alors, l'audience, la déclaration de culpabilité, le choix de la peine, là encore, c'est un débat sur la participation de chacun qui résulte des procès-verbaux. On a des débats judiciaires, les faits sont quelquefois contestés, les participations sont discutées, les enquêtes sont lourdes et très exigeantes pour les policiers, pour les magistrats également. On doit répondre à toutes les objections des avocats et ça ne manque pas. On commence par un débat juridique, question prioritaire de constitutionnalité, action en nullité, et ensuite on aborde le fond.
Avec les preuves tangibles, effectivement, à chaque fois.
Et tout ça, voilà. On choisit une sanction. Je crois qu'à Marseille, on est assez lourd là-dessus. Donc, c'est le premier temps judiciaire. Il y a l'appel, il y a la cassation, etc. Mais le deuxième temps, c'est l'exécution de la peine. Et l'exécution de la peine, ça relève d'un juge d'application des peines qui est chargé d'exécuter la loi. Et ce que ne savent pas suffisamment les citoyens, ce que ne rappellent pas peut-être suffisamment les élus, c'est qu'en réalité, les remises de peine sont quasiment automatiques. 3 mois la première année, 2 mois par année les années suivantes, tout de même, sans compter les réductions de peine exceptionnelles pour des réussites aux examens, etc. Donc, voyez l'érosion de la peine. Ensuite, mi-peine, les condamnés peuvent demander à être placés en libération conditionnelle, c'est-à-dire à sortir de prison. Et maintenant, avec les nouveaux dispositifs depuis mars 2021, aux deux tiers de la peine, le principe, c'est l'intéressé, il sort sous bracelet électronique. Donc, il y a la prison hors les murs maintenant. Il y a une érosion de la peine entre les murs qui est énorme, et ça, les citoyens doivent le savoir, c'est l'application de la loi. Ce n'est pas la fantaisie des juges, ni la mansuétude des juges.
Donc, mais c'est la conséquence du manque de moyens, du manque de place dans les prisons. C'est une volonté, une stratégie politique.
Oui, si vous voulez, l'érosion de la peine, je pense qu'elle est expliquée par 2 facteurs. D'une part, on achète la paix en détention par des récompenses qui se comportent bien, donc on achète un peu la paix, on négocie la paix en détention, et d'autre part, la surpopulation carcérale. Est-ce que les citoyens sont prêts à payer plus d'impôts pour construire des prisons? Alors, s'il y aurait des choses à faire du côté des prisonniers, pourquoi pas lancer des chantiers auprès des détenus pour qu'ils construisent et qu'ils rénovent les bâtiments? Ça, ce serait une piste pragmatique à explorer, par exemple. Mais si, donc, le sentiment de laxisme exprimé par la population paraît légitime, mais en réalité, si on analyse les choses, il y a le temps de la sanction et les citoyens peuvent venir voir comment on prononce une sanction contre telle personne pour sa participation avec ses qualités, ses défauts, ce qu'il a fait exactement, d'une part, et d'autre part, il y a la phase d'exécution. Et ça, la phase d'exécution, c'est le législateur, c'est le Parlement.
Bien sûr. On est au standard avec un auditeur qui nous appelle, Marilyn.
Oui, on a Jacques de Marseille qui souhaitait réagir à ce débat. Bonjour Jacques.
Bonjour Jacques.
Bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir sur Sud Radio.
Merci,
avec grand plaisir.
Mais écoutez, il y a un peu plus d'un mois, le monarque de l'Élysée s'est vanté d'avoir fait peur aux Français qui sont partis en masse se faire vacciner. J'aimerais qu'il file la même trouille aux voyous des cités. Mais il a l'air d'être plus compréhensif avec les dealers et les tueurs.
C'est-à-dire, ce que vous sous-entendez, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique de la part de ce gouvernement-là, de la part d'Emmanuel Macron, vraiment sérieuse contre ces dealers, ces trafics, c'est ça? Vous qui êtes à Marseille.
Moi qui suis à Marseille, je suis bien placé, monsieur Ravi aussi, on est bien placé tous les deux, il connaît bien la paternelle, les oliviers, les machets, il y a des jolis noms, mais ça tire. Darmanin, il devait les empêcher de dormir, effectivement, ils ne dorment pas, ils tirent toutes les nuits. Donc là, il a réussi à ce niveau-là.
Oui.
Après, je voudrais revenir sur le manque d'effectifs. Il paraît qu'il y a un manque d'effectifs, mais depuis qu'on a mis le pass sanitaire, dans chaque hypermarché, il y a 30 policiers qui surveillent les gens qui font les courses. J'aimerais voir le même déploiement de force dans nos cités.
Merci beaucoup en tout cas Jacques qui nous appelait de Marseille, merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Ça faisait réagir Stéphane Ravier, je vois la vidéo là justement, vous pouvez la voir sur notre site sudradio.fr. Stéphane Ravier, ça vous fait réagir, c'est quoi, vous avez l'impression que finalement on ne met pas les moyens suffisamment là où il faudrait les mettre, c'est ça un petit peu?
C'est une réalité, l'année dernière on nous avait envoyé des CRS à Marseille, mais c'était pour contrôler les Marseillais qui ne portaient pas le masque. Et il y a quelques jours, Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Madame Camilleri, a fait savoir que la tolérance s'était terminée en matière de, de passe sanitaire, des Marseillais qui seraient à la terrasse des cafés, des restaurants sans passe sanitaire, et qu'elle allait donc demander aux forces de l'ordre de contrôler et de verbaliser. Et en même temps, quand on appelle la police, on répond souvent, ce qui est vrai, que lorsqu'il y a toutes sortes d'actes de délinquance, voire de stup dans les cités, que ben on n'a pas de moyens, on n'a pas de policiers disponibles, on n'a pas de voiture, et pourtant les policiers ils sont disponibles pour verbaliser le Marseillais qui fait ses courses et qui n'a pas le pass sanitaire, qui est devenu manifestement pour Monsieur Darmanin le délinquant à contrôler et à verbaliser. Vous voyez que, comment voulez-vous que les Marseillais, les Français en général, aient confiance dans ce gouvernement ? C'est une réalité qui est évidente pour tout le monde.
Je voudrais qu'on termine en quelques mots, Karine Sabourin, sur une proposition du maire de Marseille qui en appelle aujourd'hui à un parquet spécial pour lutter contre ces trafics de drogue. Est-ce que pour vous, c'est une solution, une bonne solution parmi d'autres dont vous avez parlé jusqu'à présent ?
Oui, mais ça existe déjà partiellement, si vous voulez. Il faut savoir que Marseille est une juridiction interrégionale spécialisée dans la grande délinquance. Et donc, il y a ici un parquet, mais également une chambre correctionnelle qui sont spécialisées dans la grande criminalité organisée, dont les règlements de compte et les gros trafics de stupéfiants. Donc, ces magistrats sont affectés, enfin, sont spécialisés, il y a toute la filière, hein, si vous voulez, le parquet. Le tribunal correctionnel, ils ne font pas que ça, puisqu'ils gèrent également les règlements de compte et d'une façon générale toute la délinquance organisée, mais ça existe déjà. Par contre, l'idée elle-même, je comprends hein, l'esprit de l'idée, c'est qu'on soit renforcé en réalité, qu'on soit renforcé, que cette filière...
Qui est plus d'effectifs en fait, c'est ça quoi l'idée.
Organisée, voilà, soit renforcée en effectif. Nous, on ne demande que ça, et on le demande depuis longtemps. Vous savez, quand on a des mouvements de revendication, c'est pas pour demander des augmentations de salaire, c'est pour demander des augmentations d'effectifs. Hier, j'étais de permanence, j'ai fait une journée de 12 heures. Cet après-midi, je n'ai pas eu ce média, je crois que je suis partie pour une journée de 14 heures. C'est pas possible. Il nous faut des moyens, des moyens.
Et on l'aura entendu en tout cas ce message-là. Merci d'avoir pris le temps en tout cas.
Merci beaucoup
d'avoir été
deux.
Avec nous ce matin. Merci sur Sud Radio. Karine Sabourin, je rappelle, vous êtes déléguée de l'Union syndicale des magistrats Marseille, présidente de chambre correctionnelle au tribunal judiciaire de Marseille. Merci également à vous Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône et président du groupe Rassemblement National au conseil municipal de Marseille. Merci d'avoir accepté
deux.
De débattre avec vous
je
puis avec
juste,
nos auditeurs.
Si vous me
permettez, oui, allez-y bien sûr.
Je souhaitais juste rajouter que j'ai passé la moitié de la carrière, moitié procureur, moitié juge d'instruction, et que ce sont mes dernières fonctions de présidente d'audience correctionnelle, donc j'ai un peu vu tous les aspects du processus judiciaire.
Voilà. Et c'est pour ça que c'était important de vous entendre ce matin, pour avoir cette vue aussi globale que vous avez. Merci,
merci
à
beaucoup.
Vous deux, merci à nos auditeurs, merci également à Bruno Bartocchetti, qui était avec nous, délégué régional du syndicat d'unité SGP Police FO pour la zone sud, Occitanie, PACA, Corse. On termine, Marilyn, avec notre auditeur Jacques qui nous a appelé, effectivement, je ne l'oublie pas. Et on termine avec le résultat final de ce vote, la question qu'on vous posait ce matin sur nos réseaux sociaux, Marilyn.
Selon vous, à quel niveau se trouve en priorité la solution contre les trafics de drogue ? 1. La police et la justice. 2. Les parents. 3. Le gouvernement. 4. L'éducation nationale. Résultat des votes, 46% pour la police et la justice, 25 et 24% pour les parents, le gouvernement, et un petit 4% pour l'éducation nationale, avec un commentaire de Sevillano qui dit « À votre sondage, il manque l'armée ».
Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas très rassurant ça, mais effectivement, c'est une question peut-être...
C'est vrai, pour cadrer.
Qui se posera en tout cas de ce que disaient nos invités. Effectivement, il faudra que tous les acteurs se réunissent aussi pour faire face à ce fléau qui touche Marseille depuis bien trop d'années. Merci à vous tous. Allez, 9h44, tout de suite, on se fait un peu de plaisir, un peu de bien, un peu plus léger, avec notre chronique, bien sûr, des gens en cuisine.